bien je m'aperçois que à entendre à droite et à gauche des échos de relatifs à Properce, que son nom est moins connu que celui d'Ovide. Il y a certainement un certain nombre de raisons à ça, en particulier en France, où au XXe siècle, je n'ai trouvé qu'une seule édition, la traditionnelle édition Paganelli, qui s'est perdue dans les sables autour des années 80, c'est-à-dire qu'on ne l'éditait plus à partir de cette époque. Et elle a été rééditée très récemment, aux belles lettres, toujours, dans l'édition de Simone Viard. 2005, vous voyez, dans le même temps, je veux dire dans le même temps, parce que l'édition Paganelli, la première édition, c'est aux environs de 1925, une deuxième édition en 47, une troisième édition du même dans les années 60, je ne sais plus laquelle, 63 je crois, et puis c'est tout. C'était quasiment l'exclusivité des belles lettres, ça le reste d'ailleurs. Deuxièmement, pourquoi Ovide est plus connu que Properce ? Il y a une raison matérielle à cela. Properce a vécu deux fois moins à peu près longtemps qu'Ovide. Ovide a vécu à peu près 60 ans. On pense que Properce a vécu une trentaine d'années. L'œuvre d'Ovide est monumentale. Quand on regarde dans la librairie le nombre de volumes qui lui sont consacrés, c'est assez impressionnant. Properce, un seul livre, et encore quand on dit livre, l'œuvre de Properce, c'est un premier livre paru de son vivant. Le reste est posthume. C'est-à-dire deux livres qu'il a reconnus lui-même, puisqu'il les dédie à Perséphone dans un de ses poèmes, autrement dit, il les dédie à la mort. Et puis, deux autres livres, un deuxième livre, un troisième livre, qui ont été réunis à titre posthume, je dis. Et enfin, un quatrième, qui est un ensemble de feuillets, en réalité, sans unité thématique. Un certain nombre de ces poèmes du quatrième livre sont des poèmes de circonstance à la gloire de l'Empire, sous une forme ou sous une autre, sa mythologie, son hagiographie, etc. Et quelques poèmes du type élégiaque avec lesquels il avait engagé sa carrière, c'est-à-dire dédiés à Quintia, l'héroïne de son cycle sentimental. Est-ce à dire que c'est un poète de moindre importance parce que la quantité de ses œuvres est finalement réduite, que de moindre importance qu'Ovide ? Personnellement, je ne suis pas un spécialiste d'Ovide, loin de là. Mais je pense qu'il ne démérite pas du fait de la force de sa personnalité. Une personnalité complexe, où il déploie tout l'éventail des affects. Bon, on définit l'élégie comme une poésie de la plainte et de la mélancolie. Certes, il y a ça chez Properce, mais c'est un peu réducteur en ce qui le concerne. Vous trouvez chez Properce la colère, la fureur, le sarcasme, l'ironie, la parodie, et constamment la référence aux anciens, c'est-à-dire ses prédécesseurs immédiats comme Catulle, par exemple, ou bien aux poètes grecs, et notamment les poètes alexandrins, qui ont été la source formelle, disons, de l'élégie romaine de cette époque, c'est-à-dire l'époque de Mécène et l'époque de l'Empire d'Auguste. Alors, pour ce qui est des dates, si vous voulez, Ovide est né en 43 avant notre ère, et Properce, on le situe un peu avant, puisque c'est Ovide lui-même qui le situe comme son aîné, c'est-à-dire entre 45 et 50 avant Jésus-Christ. C'est encore Ovide, la meilleure source pour nous signaler, finalement, d'une façon très indirecte, la date approximative de sa mort, puisque en l'an 2 avant notre ère, il en parle au passé, comme un de ses amis. C'était un ami assez proche, semble-t-il, et il en parle au passé. Alors, comme il n'a rien écrit après l'élégie funèbre à Cornelia, et Cornelia, je crois que c'est une nièce, si je ne me trompe, d'Auguste, cette élégie date de 16, donc on pense qu'il est mort après cette date, c'est-à-dire autour de 15, 14, enfin bon. Vous voyez à peu près, tout est approximatif en ce qui concerne son existence. Bon, en ce qui concerne la forme élégiaque elle-même, je vais un peu comme ça, je navigue à vue parce que la matière est tellement dense qu'on ne sait plus trop par quel bout le prendre. Hein, donc on est obligé de déployer l'origami un peu au hasard. Alors en ce qui concerne l'élégie romaine, dite élégie amoureuse ou élégie érotique, enfin bon, les termes sont assez discutables, élégie sentimentale, oui, certainement. Les principaux protagonistes qui nous ont laissé quelque chose, hein, parce qu'il y a, par exemple, Gallus, qui n'a rien laissé, hein, n'a pas laissé de traces, et d'autres encore, Varron, je pense. Enfin, je ne sais pas si Varron en faisait partie, mais il me semble. Ceux qui nous sont restés, c'est dans l'ordre Tibulle, l'aîné des trois, Properce, et Ovide le plus jeune. La forme, c'est celle du distique élégiaque, c'est-à-dire une poésie narrative fondée sur un groupe de deux vers, hexamètre, pentamètre. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail, on trouve ça dans tous les ouvrages de grammaire, y compris depuis la troisième, à savoir bon, la succession des dactyles, des spondées, des troquets, etc. Bon. Je pourrais en faire le détail, mais ce serait assez fastidieux ici, hein, dans le cadre de cette présentation, disons. Bien, alors, donc, poésie narrative, c'est d'ailleurs un peu ce qui m'a attiré chez Properce, hein. Comme ça m'a attiré également chez des poètes comme John Donne, qui ont repris également au début du XVIIe siècle, élisabétain, dans une œuvre de Genèse qu'on appelle « Les élégies de John Donne », il a repris la même formule, c'est-à-dire une poésie narrative, mais assez erratique dans son mouvement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une ligne directrice fixe, rigide, mais au contraire des bifurcations, on pourrait appeler une fantaisie au sens peut-être étymologique, comme Schumann peut parler de fantaisie, c'est-à-dire finalement de mouvement errant, où l'imagination suit son cours un peu en fonction de ce qui arrive, vous voyez. C'est cette espèce d'étrangeté qu'on pourrait dire qui a dérouté bon nombre de commentateurs, notamment à l'époque classique et ensuite. Hein, les universitaires ont tourné autour de Properce avec beaucoup de méfiance à cause de ça, à cause justement de ce caractère un peu fantaisiste qui fait qu'on part dans un sens et puis une idée vient, on s'embarque par exemple sur un thème mythologique qui a un vague rapport ou un rapport direct avec ce qui vient d'être dit, puis on passe à autre chose et puis on conclut. Et curieusement, la conclusion, ou du moins la retombée du poème, c'est une espèce de révélation. Il se débrouille très bien lorsqu'il finit un poème. Je pense que le mieux finalement, plutôt que de parler de sa vie, si quand même, il y a un petit malentendu qui a été longtemps entretenu à propos de la figure de Quintia. un malentendu qui a été notamment entretenu par l'exégèse qui voulait que l'œuvre était un calque de la biographie de l'auteur. Imaginez Manon Lescaut étant un simple prête-nom d'une figure ayant eu des relations morganatiques avec l'abbé Prévost. Eh bien, le personnage de Quintia, je ne dis pas Sainty comme au XVIIe siècle, mais je reprends puisque maintenant, de toute façon, les noms exotiques font partie de notre vie courante, je reprends le prénom que Propers utilise, et puis je trouve que c'est très bien comme ça, ça sonne beaucoup mieux. Alors, je disais donc, Quintia est une effigie, elle n'a pas plus de réalité que Manon Lescaut ou la Julie de Jean-Jacques Rousseau dans La Nouvelle Héloïse, vous voyez. Simplement, on a voulu absolument en faire une aventure réellement amoureuse de Propers, vous voyez, et ça a complètement transformé, je dirais même déformé, la vision qu'on pouvait avoir de cette œuvre, étant donné qu'on voulait suivre à la trace les aventures du poète. Et alors évidemment, à certains moments, comme on avait affaire à des personnages assez différents, hein, tantôt un personnage très lointain, d'une grande noblesse, et puis tantôt une véritable morue, une grue, enfin, une fille à soldat, qu'on se dit, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprend pas, là il doit y avoir un manque, il doit manquer un poème, enfin je ne sais trop quoi. Résultat, on faisait sur Propers un véritable contresens, alors qu'il s'agit d'un personnage, d'une effigie complètement mythique, qui lui sert de support à un éventail très diversifié d'affects que l'on peut trouver comme ça de soi-même au coin d'une table. Et on propose un prétexte quelconque et on déploie. Alors, pour ce qui est de sa biographie, eh bien, j'y reviens. Je vais tout simplement prendre des extraits de poèmes de Propers. Il en parle mieux que personne, d'une façon directe ou allusive, mais avec beaucoup de doigté. Alors, je vais prendre d'abord la fin du premier poème, qui est en deux parties, du quatrième livre. Alors, le thème, Propers cessait à l'éloquence épique et se fait rabrouer par un charlatan qui est un faux devin qui lui donne des leçons oratoires, enfin, d'éloquence. Et il se dit devin, c'est-à-dire qu'en fait, il enfonce des portes ouvertes, puisqu'il dit deviner ce que la mythologie a toujours dit, enfin, dans des faits mythologiques connus de tous, il dit les avoir devinés avant tous les autres, enfin. Et puis, il en vient à la biographie de Propers. Alors, évidemment, on voit le sourire de Propers derrière. Le devin sait ce que je sais. Enfin. Alors, voilà ce qu'il dit. Mais d'histoire, il suffit. À toi, à ton étoile à présent. Toi, pour commencer, affronte avec calme de nouveaux pleurs. L'anticombrie te fait naître en d'illustres pénates. Je mens ou je touche aux rives de ta patrie. Le creux de plaine où s'égouttent les brumes de Mévanie, c'est-à-dire l'actuel Bévania, en fait. Le lac d'Ombrie, ces eaux que réchauffe l'été, la crête où s'élève en montant la muraille d'Assise, muraille que ton génie rend plus illustre encore. Tu recueilles avant l'âge permis les cendres de ton père, toi-même contraint à de pauvres dieux l'art, Alors là, il évoque tout simplement le fait que Auguste, l'empereur, a exproprié un certain nombre de personnages importants, dont le père de Tibulle, dont le père de Properce, des propriétés qu'il possédait. Le père de Properce, semble-t-il, était un propriétaire terrien, éleveur notable, et donc qui vivait assez confortablement sur ses terres, et il en a été exproprié. Alors, tu recueilles avant l'âge les cendres de ton père, toi-même contraint de pauvre Dieu l'art, ces terres en effet, ces riches cultures que retournaient tant de jeunes taureaux, te les retirent, la perche funeste de l'arpenteur. Alors, cette expropriation, en fait, elle provient du fait que Auguste voulait récompenser les vétérans de la bataille de Philippe, oui, dont le père de Properce ne faisait évidemment pas partie. Bientôt, lorsque la bulle d'or quitte ton jeune cou, que tu prends avec ta liberté la toge virile devant les dieux de ta mère, Apollon te dicte quelques-uns de tes chants. Il te refuse les mots insensés, la foudre du forum. Toi, tu manies l'élégie. L'œuvre est trompeuse, mais c'est ton camp. Et je pense que là, il résume absolument ce qu'il fut et le but de son esthétique. Il signifie bien qu'il ne s'agit pas d'un journal intime, puisqu'il dit « l'œuvre est trompeuse ». Mais c'est ton camp. Et là, il réagit en même temps contre la volonté de Mécène et d'Auguste d'en faire un poète épique, à la gloire évidemment des œuvres de l'empereur. C'est un thème récurrent dans l'ensemble de son œuvre, ça. Cette volonté de résister à la pression, puisque Properce est jugé par Mécène comme quelqu'un de talentueux, il faut qu'il se mette au service du despote. Et Properce semble résister. Il finira bien par céder parce que c'est une question de vie ou de mort à un moment donné de sa carrière, de sa courte carrière d'ailleurs. Bon, je n'insiste pas plus sur ce poème qui est très long, hein, qui compte 150 vers, vous voyez. Maintenant, je voudrais quand même citer les quatre derniers vers. « À présent, que ton navire lutte au sein des vagues, que sans armes tu veuilles affronter une armée, ou que la terre qui tremble ouvre sur un vide sans fond, crains le signe du cancer, ses huit pattes et son sinistre dos. » Ça, c'est la façon dont Properce termine un poème. Vous voyez, il a toujours comme ça un moment très fort, une espèce de point d'orgue qui est tout à fait saisissante dans un ensemble qui, quelquefois, est d'une narration assez plate. Il trouve toujours, je ne le dis pas en latin parce que là, je suis un petit peu, comme vous pouvez vous rendre compte, un petit peu ému. Et donc, ça me serait un peu difficile pour le moment. Enfin, peut-être que tout à l'heure, ça ira mieux. Alors, du point de vue de l'autobiographie, je trouve aussi, à la fin du premier livre, deux petits poèmes, dont l'un est un véritable joyau pour moi. Mais enfin, « Mes parents, d'où sont-ils? Qui suis-je? Et quelles sont mes pénates? Par notre longue amitié, Tullus, tu le demandes. Si tu connais Pérouse, tombeau de la patrie, et pour l'Italie tant rude et sinistre, où Rome fut contrainte à la guerre civile, pour moi notamment, terre de douleur, ô Étrurie, toi qui laisses abandonner le corps de mon proche sans même recouvrir les restes du malheureux. Tout à côté l'Ombrie, la plaine est à son pied, pays riche et fertile qui m'a fait naître. » C'est une évocation en fait d'un moment de la guerre civile qu'on a appelé la guerre fulvienne. Ça s'est produit en 42, je crois, où Pérouse, terre natale de Properce, a été assiégée et s'est rendu. Et durant cet épisode, il semble qu'un frère de Properce y ait laissé la vie. Ce que semble confirmer le poème précédent. Alors c'est anecdotique, semble-t-il, mais c'est quand même la source de ces Properce d'une belle inspiration. Toi, frère, qui t'empresse d'échapper à notre sort, soldat blessé des remblais d'Étrurie, pourquoi de m'entendre gémir, de détourner les yeux gonflés de larmes? Je suis le plus proche de tes compagnons d'armes. Ainsi puissent tes parents se réjouir de ta vie sauve, et que ces faits, ma sœur, les devinent à tes larmes. Gallus, qui se tire à grand-peine des épées de César, n'a pu se soustraire à des mains inconnues. Qu'importe les ossements qu'on trouve épars dans les monts d'Étrurie, qu'elle sache, ce sont les miens. C'est là où on peut parler de l'universalité de l'inspiration de Properce, puisque Bob Dylan chante un air de la guerre de sécession qui retrouvait, où l'on retrouve exactement le même thème. Oui. C'est-à-dire finalement le message du soldat blessé à celui qui semble avoir la vie sauve mais qui finalement la perdra aussi. Bon, je n'en dirai pas plus sur cette question de biographie, mais je voudrais passer quand même au cycle Cynthia. Je vais, avant d'épiloguer, je préférerais lire. Alors, il s'agit du premier livre. Dans ce premier livre, Properce, le personnage de Properce, c'est-à-dire que le propre de Tibulle, comme d'Ovide et Properce évidemment, c'est de se présenter comme héros de la narration vis-à-vis d'un personnage qui évidemment prend par rapport au nom de l'auteur une certaine réalité, mais qui en fait est tout à fait fictive. Ce personnage est fictif comme le Properce de l'écriture. Alors, à partir de là, on accepte le jeu. Mais justement, le contresens a été développé à partir justement de cette ambiguïté entre l'identité de l'auteur et les personnages qu'il met en scène. Que n'ai-je mérité d'avoir pu fuir mon ami? À présent, je parle aux alcyons solitaires. Cassiopée, mon esquif, ne la reverra plus. Sur le rivage ingrat se brisent tous mes vœux. Même absente Cynthia, le souffle des vents t'accompagne. Pas plus que les tempêtes, le sort ne se calmera-t-il? N'y a-t-il un peu de sable pour couvrir ma dépouille? Toi, pourtant, donne meilleur tour à la fureur de tes plaintes. Pour ma peine, c'est assez de la nuit et des bas-fonds hostiles. Est-ce vrai? Tu pourras, les yeux secs, enfouir ma destinée sans garder en ton sein le moindre de mes restes? Ah, maudit soit le premier qui apprêta barque et voile et força l'abîme à lui ouvrir la voie. Vaincre l'humeur de ma maîtresse n'était-ce donc plus simple? Bien qu'elle fût insensible, cette fille était rare, que d'atteindre les plages cernées de forêts inconnues dans l'espoir d'y voir paraître les tindarides. Si là-bas quelque destin avait enseveli ma douleur, et si la pierre ultime se dressait où mon amour repose, elle aurait fait à mon deuil don précieux de ses cheveux, elle aurait sur de tendres roses posé mes restes en douceur, aurait clamé mon nom sur la poussière de mes cendres, afin que sur moi la terre ne pèse. Et voyez encore une de ces belles conclusions. Mais vous, fille marine de la belle Doris, d'un cœur bienheureux, dénouez mes voiles blanches. Si jamais amour s'éprit à effleurer vos vagues, épargnez un ami, apaisez les rivages. Alors évidemment, c'est du André Chénier. Simplement, il y a quand même un petit élément d'ironie. Le thème, c'est quoi? On quitte une fille parce que finalement, elle est déchaînée. C'est une furie, c'est un ouragan. Et à partir de là, il développe une métaphore qui est même une hyperbole. Enfin, voilà, et c'est un jeu littéraire, et ça apparaît avec évidemment à chaque fois comment dire, l'intermède mythologique, hein, la belle Doris, les filles marines de la belle Doris. Et je vais essayer hein, de vous lire les derniers vers en latin que je trouve très beaux. Hein. Ad vos aequore formosa doride natae, candida felici solvite vella coro, si quando vestra labens amor atigit undas, mansuetis socio parcite litoribus. Vous voyez que tout de même, c'est une poésie qui est rythmée, qui chante. Et d'ailleurs, le personnage de Quintia, est appelé à dire ses poèmes, à chanter ses poèmes. Autrement dit, à un certain moment, elle fait corps avec sa poésie. Et il ne faut pas perdre de vue cet aspect-là des choses tout au long de ses poèmes, en fait. Bon, je n'insiste pas sur le premier livre. Enfin, vous voyez, bon, l'aspect plainte est très apparent. C'est l'œuvre d'un tout jeune homme. Ce sont les premières œuvres. Et par la suite, vous verrez que le ton change. Vous voyez par exemple celui-ci. Plaise à d'autres d'écrire sur toi, à moins de rester inconnu. Qu'il te loue, celui qui en sème une terre inculte. Tout est bien, crois-moi, et toi sur un même lit, le jour sombre des funérailles à la fin les emportera. Négligeant tes restes, le voyageur passera et il ne dira pas « Il fut, elle, ici fut la cendre d'une docte fille. » Vous voyez que le ton est là, il est nettement plus féroce. Et dans le deuxième livre, d'ailleurs, il y a une variation entre l'exaltation, le dépit, l'ironie aussi. Bon, tu te dévoies, très bien. Moi, ça, tu sais, ça m'est égal, c'est... J'en ai vu d'autres. Voilà. Puis à d'autres moments, il joue le cocu magnifique, à savoir tu me trompes, mais c'est par dépit envers moi. Enfin, voyez. Et donc, il joue sur toute la gamme des sentiments d'une façon extrêmement subtile par moment. Enfin, bon, j'aurais peut-être le temps d'en lire pas mal, mais. Ainsi. Quelle que soit l'heure où la mort me fermera les yeux, écoute bien les volontés qu'à mes obsèques il te faudra respecter. Que ne défile à mon cortège aucune suite de portraits. Pas de trompette plaignant en vain ma destinée. Ensuite de quoi ? Pas de lit à mon temps d'ivoire. Pour mon repos funèbre, nul besoin de la couche d'Atal. Qu'on renonce aux parfums sur plateaux alignés, qu'on m'offre un modeste convoi d'obsèques plébéiennes, me suffit amplement le cortège de mes trois livres, dont le plus beau qu'à Perséphone j'offrirai. Toi, les seins nus et lacérés, tu me suivras sans te lasser, tu clameras mon nom, et sur mes lèvres glacées, tu poseras les ultimes baisers, tandis que du vase d'onyx se répandra l'offrande de Syrie. Puis, lorsque placé dessous, le feu m'aura fait cendre, que l'urne de terre minuscule reçoive les mannes, que sur ma tombe étroite, on ajoute un laurier dont l'ombre couvrira le lieu de mon bûcher détruit. Qu'on inscrive ces deux vers, rue de poussière désormais, il gît celui qui fut l'esclave d'un amour unique. Non moins connu et renommé sera ma tombe que le sanglant tombeau de l'homme de Phti. Si pour toi aussi prend fin la destinée, prends ce chemin et viens les cheveux blancs jusqu'à la pierre qui se souvient. D'ici là, garde-toi de négliger ma sépulture. La terre complice sait quelque peu la vérité. Dès le berceau, que n'ai-je rendu l'âme sur l'ordre de l'une des trois sœurs ? À quoi bon garder le souffle d'une heure aussi peu sûre ? On vit la cendre de Nestor succéder à trois générations. Si un soldat phrygien sur les remparts d'Ilion, si d'un si grand âge avait abrégé le destin, il aurait vu mettre en terre le cadavre d'Antiloque et se serait écrié « Ô mort, pourquoi tarder autant ?» Pourtant, sur l'ami disparu, parfois tu verseras des pleurs. aimer l'homme qui n'est plus est ce que les dieux imposent. Pour preuve, Adonis à la blancheur de neige qu'un sanglier cruel heurta tandis qu'il chassait sur les hauteurs d'Idalion. Dans sa beauté, dit-on, il fut couché dans le marais. C'est là, ô Vénus, que cheveux épars, tu es allé. Mais c'est en vain, Quintia, que tu rappelleras mes manes. Mais en effet, comment parleraient les débris de mes os ? Alors, évidemment, là, le thème funèbre est un thème cher à Properce, mais il faut savoir aussi que l'art de l'épitaphe est consubstantiel de l'inspiration de cette époque. Et il y a aussi des auto-épitaphes dans Tibulle. Généralement, le mort parle au vivant, disons que lui est encore vivant, les autres ne le seront plus. C'est souvent ça le thème des épitaphes de cette époque, et notamment Properce en tire parti très souvent. Et c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai redécouvert une seconde fois, à partir d'une épitaphe que j'aurai peut-être le temps de lire dans le cadre du septième poème du quatrième livre. Et ça, nous verrons un peu plus tard, si nous en avons le temps, je le pense, mais enfin. Ô bonheur, ô nuit radieuse, et toi, ô bienheureux petit lit, témoin de mes plaisirs. Sous la lampe, que de mots échangés, et la lumière enlevée, que de combats. Tantôt les seins nus, elle luttait avec moi, tantôt elle m'attirait pour m'opposer sa tunique fermée. Le sommeil me gagnait, d'un baiser elle me rouvrit les yeux. Ainsi donc, tu dors, paresseux, que d'étreintes en tous sens, nos bras n'ont-ils noué. Combien sur tes lèvres mes baisers se sont-ils attardés. Il déplaît à Vénus qu'on s'ébatte dans l'ombre, c'est la profaner. Si tu l'ignores, sache bien que les yeux sont des guides d'amour. Alors il faut savoir que... Les ébats amoureux en plein jour, ou du moins sous la lampe, étaient à l'époque un tabou. Et que d'une façon générale, il fallait faire ça dans le noir. D'où cette allusion qui est en fait un héritage du vieux Caton, de Caton l'Ancien, qui était un vieux bougon misogyne qui aimait bien le vin. Paris lui-même se meurt d'amour de voir nue la Laconienne au sortir du lit de Ménélas, nue et Endymion quand la sœur de Phébus est séduite, et la déesse est nue lorsqu'il couche avec elle. Que tu persistes à coucher habillé, je déchire ta robe et tu feras l'expérience de mes mains, bien plus si la colère m'emporte au-delà. À ta mère, tu montreras tes bras meurtris. Tes mamelles ne pendent pas encore pour te priver de jeu. N'éprouve cette honte que celle qui enfanta. Tant qu'il plaît au destin, que nos yeux se repaissent d'amour. Voici que vient la longue nuit sans que le jour revienne. Là, ça, c'est une allusion directe à Catulle. J'essaierai de vous lire un poème très connu de Catulle à cette occasion. Puisses-tu vouloir nous enchaîner l'un à l'autre en sorte que le temps jamais ne nous délie. Prends exemple sur l'amour qui unit les colombes, de mâle à femelle, tout en nœud et couple. Il se trompe celui qui cherche un terme à l'amour fou, sans limite et l'amour vrai. La terre, par une fausse récolte, se jouera du laboureur. Le soleil lancera des chevaux noirs, les fleuves reviendront à leur source. Et dans des fonds d'abîmes arides, le poisson séchera avant que je puisse ailleurs transporter mes tourments. Vivant, je lui appartiendrai, mort, je lui appartiendrai. Qu'elle veuille parfois m'accorder semblable nuit, de vivre une année, j'aurai longtemps vécu. Qu'elle m'en donne beaucoup, je serai immortel, une seule de ces nuits fait de quiconque un dieu. Si tous désiraient que s'écoule une telle existence, à rester étendu, corps engourdi par l'abondance de vin, il n'y aurait ni vaisseau de guerre, ni glaive cruelle. Et nos restes, les vagues d'Actium, ne les rouleraient pas. Rome, tant de fois assaillie par ses propres triomphes, ne se lasserait pas de dénouer ses cheveux. Il est au moins vertu dans la prospérité. Il est au moins vertu dont la postérité pourra me louer. Jamais nos libations n'offensèrent un Dieu. Tant qu'il fait jour, ne renonce pas aux fruits de la vie. Sont encore bien peu tous les baisers que tu me donnes, comme les pétales que tu vois tomber des couronnes fanées pour se répandre et flotter sur nos coupes. Ainsi de nous, amants, qui à présent formons de grands espoirs, demain peut-être s'achèvera notre destin. Et ça, c'est une allusion directe également à Catulle. Je vais essayer de retrouver le petit poème très connu d'ailleurs. C'est un des plus beaux qui est écrit Catulle, mais enfin, parmi les plus beaux qu'il ait écrit. J'espère pouvoir le retrouver. Voilà. Vivons, aimons-nous, ma lesbia, que tous les murmures des vieillards sévères n'aient pour nous que la valeur d'un as. Les rayons du soleil peuvent mourir puis renaître. Nous, que meurt notre brève lumière, il nous faut dormir une même nuit sans fin. Donne-moi 1000 baisers puissants, puis 1000 autres encore, et 100 eaux, et 100 une seconde fois. Et d'en avoir ajouté des milliers, nous les embrouillerons à n'en plus rien savoir, en sorte que l'envieux ne nous porte malheur s'il sait qu'il s'est donné tant de baisers. L'inspiration est directe, mais transposée. Donc, Properce, c'est d'abord un poète qui écrit en parfaite connaissance de la culture des anciens. Voilà, et c'est d'abord ça qu'il faut voir. Et si Israpand l'a redécouvert et l'a encensé, c'est un peu pour les mêmes raisons. Cette espèce de connaissance, universelle de la culture qu'il intègre à sa poésie, par-delà les faits qui concernent sa vie. Au troisième livre, je ne l'avais pas prévu, j'avais hésité en fait dans ma lecture, mais je pense que j'en aurai quand même un peu le temps. J'avais surestimé. Le dieu César songe à mener la troupe chez les riches Indiens, sa flotte fendant les vagues d'une mer remplie de perles. Digne salaire, ô grand homme, la terre des confins prépare des triomphes. Le Tigre et l'Euphrate couleront sous tes lois. Elle tarde cette province, mais sous les verges de l'Ausonie, elle viendra. Les trophées des Parthes se feront au Latium, à Jupiter. Jupiter, c'est aussi l'empereur. Allez, partez, navires aguerris, donnez de la voile comme d'ordinaire, chevaux guerriers, remplissez votre office. Je chante d'heureux augures, allez, vengez la défaite de Crassus. Allez, veillez à l'histoire de Rome. Ô vénéré Mars, lumière prophétique de la sainte Vesta, faites, je vous prie, qu'avant son terme le jour vienne où je verrai sur le char de César la charge des dépouilles, les chevaux tenant tête à la foule qui sans cesse applaudit. Moi, reposant sur le sein de mon aimé, je me mettrai à regarder, je lirai sur les écriteaux l'inscription des villes soumises, les flèches des cavaliers fuyards, les arcs des guerriers portant des brais, et sous les armes, assis, les chefs captifs. Toi-même, Vénus, préserve ta lignée, que jusqu'à la fin des temps survive cet être en qui tu vois la descendance d'aînés, qu'ils aient ce butin, ceux dont les travaux le méritèrent, me suffira sur la voie lactée de pouvoir applaudir. Pardon ? Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est une habitude d'astronome amateur. La voie sacrée, oui, effectivement. Si ça avait été la voie lactée, ça n'aurait pas été plus mal. D'ailleurs, à un certain moment, il doit l'évoquer quelque part pour désigner Auguste, justement, sur son char, trônant dans la voie lactée. Enfin. Bon, c'est la voie sacrée, effectivement. Excusez-moi. Vous voyez que là, il essaye d'intégrer l'élégie amoureuse au dithyrambe, mais c'est un dithyrambe relativement ironique, à des traits à peine perceptibles. Allez, je chante d'heureux augure, allez venger la défaite de Crassus, qui est une défaite relativement cuisante qu'a connue, non pas l'Empire, puisque Auguste devait avoir 16 ans à ce moment-là. Mais enfin, le dieu César songe à mener la troupe chez les riches Indiens, donc il prend des risques. Et le risque, c'est peut-être aussi la défaite de Crassus. Mais ce n'est pas souligné. C'est simplement évoqué comme ça en passant. Vous voyez ? Bon, c'est les chemins de traverse que prend Properce pour essayer d'éviter d'affronter l'écueil et en même temps d'éviter les ennuis, quoi. Je n'en lirai pas d'autres parce que c'est la part, quand même, j'avoue, la plus fastidieuse de Properce. Encore qu'il y ait de temps à autre de beaux vers, par exemple, la fin de l'énorme poème consacré à la victoire d'Actium, hein, qui avait consacré le pouvoir absolu de Auguste contre l'autre consul, Antoine et Cléopâtre. C'est le poème 6, je crois. Oui, c'est celui-là. Je vais vous lire simplement les derniers vers, parce que, bon... vous voyez, si je lis les tout premiers vers, le poète offre un sacrifice, qu'au sacrifice les voix soient favorables, que devant mes autels frappés une génisse tombe, que la tablette romaine le dispute aux grappes du lierre de Philétas, et que mon urne prodigue les eaux de Cyrène. Enfin, bon, alors, alors après il y a le descriptif de la bataille, bon, avec beaucoup d'hyperbole, et évidemment le couplet destructeur de la figure de Cléopâtre, cette femme et qui se perd en Méditerranée sur une coque prête à sombrer. Enfin. Mais les derniers vers sont quand même assez beaux. « Si d'entre les sables noirs tu ressens quelque chose, réjouis-toi, Crassus, qu'au-delà de l'Euphrate, on puisse aller jusqu'à tes cendres. Ainsi, pater en main, je passerai la nuit, ainsi je mènerai mon chant, jusqu'à ce que le jour surgisse et qu'il rayonne dans mon vin. » Alors évidemment, vous allez peut-être être un peu gêné par la forme que j'emploie pour traduire. Ne croyez pas que je trahisse tellement le sens des mots. À certains moments, je prends quelques petites libertés. À certains moments, je le regrette bien. D'ailleurs, il y a des choses que j'aimerais bien revoir. Mais bon, ce qui est écrit est écrit. J'espère qu'il y aura une prochaine édition où je pourrai intervenir. qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, le distique élégiaque a une scansion. Alors, souvent, on le réduit pour le traduire à l'alexandrin. Je ne cherche pas l'alexandrin. Il apparaît à ce moment-là, je l'invite, il se laisse inviter, pourquoi le refuser ? Là, quelquefois, la rime s'invite, je l'accepte sans la rejeter, pourquoi ? Mais il y a aussi bien des endécasyllabes, il y a des vers à 17 pieds, des vers à 13 pieds. Simplement, habituellement, Properce est traduit en prose, ce qui fausse, à mon avis, son approche. C'est un poète, je pense que même si on n'a pas, la langue française n'a pas la concision de la langue latine qui se permet comme ça des élisions extrêmement fortes du fait qu'elle peut d'abord supprimer les articles, supprimer même certaines, comment on appelle ça, des... Ah, ça porte un nom, ça. Enfin, des conjonctions, des adverbes, des choses comme ça, parce que les désinences en tiennent lieu. Hein. Si vous avez un ablatif, vous avez nécessairement un terme qui permet de l'introduire dans, par, sur, etc. Hein, ou bien ce qui fait que, et même quelquefois, le sens est induit sans qu'on soit obligé de le déployer. On peut même supprimer certains mots qui, pour nous, certains termes, certains substantifs qui pour nous sont indispensables. En latin, c'est induit simplement par le mouvement de la phrase. Ça semble aller de soi. Les latinistes doivent le savoir mieux que personne et mieux que moi sans doute. Alors justement, à propos de ce quatrième livre où on trouve l'essentiel des œuvres de commande, à la gloire de l'Empire, à la gloire de la nation romaine, à la gloire de l'empereur. C'est dans le quatrième livre qu'on les trouve. Hein. Ils apparaissent peu à peu dans le troisième livre. Mais on me posait la question tout à l'heure, est-ce que le thème amoureux est essentiel chez Properce ? Il l'est. Mais il l'est de différentes manières. Il l'est quelquefois sur le mode de la comédie. Je vais essayer de vous en lire un dans le troisième livre. Attendez, si je vais essayer de le retrouver parce que j'ai un peu perdu le fil. Oui, bon, je vais quand même vous lire celui-ci puisqu'il me tombe sous la main. Douce hier me fut la dispute sous les flambeaux et les malédictions que d'une voix démente tu me jetais quand le vin t'égare, que tu renverses la table, que d'une main folle tu me lances des coupes pleines. Allons, aie l'audace de te jeter sur mes cheveux, de me marquer la face de tes beaux ongles, de menacer mes yeux, de les soumettre à la flamme pour les brûler. Déchire mon vêtement, mésallume ma poitrine. À coup sûr, ce sont là pour moi des signes de passion vraie. Jamais femme ne s'emporte sans un puissant amour. Que de rage sa langue profère des injures, qu'elle se roule aux pieds de la grande Vénus, qu'entourée d'une troupe de gardes, elle aille par les rues telle une ménade en transe, que nuit après nuit, les rêves insensés l'épouvantent, ou qu'elle s'émeuve d'un portrait de jeune fille, de ses tourments du cœur, moi, véritable aruspice, j'ai appris à coup sûr que souvent ce sont là signes d'amour. Peu sûre est la fidélité qui ne tourne en querelle, qu'à mes ennemis échoit femme indifférente, que mes amis voient sur mon cou des morsures, que la marque des coups prouve qu'elle fut mienne. En amour, je veux ou bien souffrir, ou voir souffrir, voir couler mes larmes ou bien les tiennes. Si jamais tu fronces le sourcil pour de secrets messages, ou que tu traces du doigt de muettes écritures. Moi, je hais les sommeils que jamais ne troublent les soupirs. Je voudrais que toujours sa fureur me fasse blêmir. À Paris, au sein des armées grecques, la flamme était plus douce. Quant à sa chère Tindaride, c'est-à-dire Hélène, il pouvait apporter du plaisir, tandis que les Danaïens, les Grecs, triomphent, que le triomphe d'Hector fait front, que le féroce Hector fait front. C'est dans les bras d'Hélène qu'il mène la plus grande des guerres, pour ou contre toi, contre mes rivaux, toujours. Je porterai les armes, avec toi la paix ne me plaît guère. Réjouis-toi qu'aucune autre ne soit aussi belle, sinon tu souffrirais. À présent, il t'est permis à bon droit d'être fier. Mais toi, qui autour de mon lit noies des raies, puisses-tu avoir sans fin beau-père et maison qui ne soit pas sans mère. Cette nuit qu'à présent tu m'as volée, si l'occasion t'en fut donnée, c'est par rancune envers moi, non par amitié pour toi. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le « mets-toi » qui autour de mon lit noie des raies, c'est le rival auquel il s'adresse. Dans le mouvement du poème, on ne l'aperçoit pas tout de suite. Mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Alors, vous voyez, là, c'est le thème même du Cocu Magnifique. c'est un thème assez subtil. Parce que toutes les nuances de la fureur et du plaisir masochique, puis en même temps d'une espèce de consolation à moindre frais. On ne trouve pas ça chez Tibulle. Tibulle, c'est beaucoup plus uniforme, à mon avis. Je ne le connais pas très bien, je l'ai lu, mais il me semble qu'il y a quelque chose de plus pastel, de plus neutre finalement. Ainsi, tandis que s'éloignait le navire de Thésée, gisait la gnossienne abandonnée, languissante sur la plage. Ainsi dormait de son premier sommeil la céphéenne Andromède, libre enfin de ses âpres récifs. Ainsi, non moins épuisée par sa ronde sans fin, s'ébat une ménade dans l'herbe de Lapidane. Tel m'apparut, respirant d'une douce quiétude, Quintia, tête appuyée sur des mains que je percevais mal, alors que mes pas chancelaient de trop d'ivresse de Bacchus, et que tard dans la nuit s'agitaient les torches des jeunes esclaves. N'ayant perdu tout à fait la raison, m'appuyant sur sa couche en douceur, je tente de l'approcher. J'étais prise en vérité d'une double et vive ardeur. Amour et libère, deux cruels l'un et l'autre me pressaient, bras sous ailes glissés doucement, de prendre position. De prendre position, de lui ravir des baisers, d'engager le combat. Troubler le repos de ma maîtresse, jamais pourtant je ne l'avais osé. Craignant d'expérience la fureur de ses querelles, mais penché vers elle, j'étais le regard fasciné, comme Argos ignoré, veillant sur la fille cornue d'Inachos, tantôt détachant de mon front des guirlandes, je les déposais sur ton front, Quintia, et tantôt me plaisait à relever ta chevelure défaite. Je déposais des fruits doucement dans le creux de tes mains, sommeil sans égard pour mes largesses vaines, dont qui roulaient dans la pente d'un pli. Chaque fois qu'un léger mouvement te faisait soupirer, crédule, interdit, j'y voyais un augure trompeur, de crainte que mes songes ne portent d'étranges frayeurs, que de force on y veuille te prendre. Puis aux fenêtres d'en face, la lune apparut, la lune et sa clarté s'attardant avec zèle, à ses rayons légers s'ouvrirent les doux yeux bien clos. Alors, coude enfoncé dans la couche moelleuse, elle dit « Enfin, et tu reviens faire injure à mon lit, parce qu'une autre à présent, te chassant, aura fermé sa porte. Où étais-tu? Qu'as-tu fait ce temps? Qu'as-tu fait ce temps de la longue nuit qui m'était due? Te revoilà, pauvre de moi, sans force, à l'heure où les astres déclinent. Plaise aux dieux misérables que tu passes des nuits comme celles que tu ne cesses de me faire subir, moi l'infortuné. Tantôt, pour tromper le sommeil, je filais de la pourpre, puis lassé, je reprenais mes chants sur la lyre d'Orphée. Tantôt, dans ma solitude, je me plaignais à voix basse des longs retards dus souvent aux amours étrangères, jusqu'à ce que je glisse, poussé par l'aile agréable du sommeil. Ce fut à mes larmes, un ultime remède. » Dans ma façon d'écrire normalement, je suis hanté par l'euphonie, hein, même quand j'écris une lettre administrative. Il y a quelque chose qui relève du plaisir d'écrire, si vous voulez, qui passe par l'euphonie chez moi. Chez d'autres, pas du tout, et ils ont bien raison, enfin, c'est pas le problème. Et donc, j'ai trouvé chez Propers, bon, je lisais évidemment tant que je pouvais le texte latin, et bon, je le lisais un peu comme les curés du Vatican, hein, c'est-à-dire que je connais en gros les accents toniques de la langue latine, hein, où il faut les placer, bon, ça je sais à peu près, simplement pour suivre ensuite la scansion du mystique élégiaque, pour moi, c'est une autre paire de manches. Pour d'autres, ça vient plus naturellement, mais bon, peut-être qu'évidemment, une brève et une longue, la succession brève-longue, le vers iambique ou chose comme ça, c'est peut-être plus simple, mais là, c'est assez complexe, quoi. En fait, c'est la langue du discours, hein, le distique élégiaque. Hein, ce n'est pas le cas de l'ode ou de choses qui ont valeur incantatoire. Là, on voit bien que c'est une poésie à caractère essentiellement narratif. Narratif, mais avec évidemment des envolées lyriques et tout ça, hein, ça c'est évident. Ça chante quand même, hein, c'est pas un discours plat. Alors celui-là, bon, c'est un de mes plus chers. Je lirai aussi, si j'en ai le temps, le 27 du deuxième livre, que je trouve très beau aussi. Mais enfin, je passe au troisième, là. À présent, ô Bacchus, au pied de tes autels, humblement je me prosterne. Avec la paix, accorde-moi, Père, des voiles favorables. Toi seul peux contenir la folie et l'orgueil de Vénus, car il y a dans ton vin remède aux inquiétudes. Par toi les amants sont unis et par toi séparés. Toi, Bacchus, lave mon cœur de son mal. Toi non plus tu n'es pas inexpert, si l'on en juge Ariane, que tes lynx se menèrent au ciel parmi les astres. Ce mal qui dans mes eaux garde secret des feux anciens, les funérailles le guériront, ou bien ton vin. Toujours s'ils n'ont pas bu, la nuit tourmente les amants solitaires, crainte et espoir leur tournent et retournent le cœur. Ô Bacchus, si par tes dons qui échauffe mes tempes, le sommeil à tes ordres me pénètre tes os, me pénètre les os, moi-même sur les collines, je planterai, j'alignerai les rangs de vignes, que sous ma surveillance aucune bête ne pourra saccager. Pourvu que la pourpre du mou fermente dans mes jarres, que le raisin nouveau barbouille les pieds qui foulent, ce qui me reste de vie par tes cornes, Bacchus, je le vivrai en poète, acclamé ta puissance. Je dirai l'enfantement maternel par la foudre de l'Etna, l'armée de l'Inde en fuite dans les cœurs, devant les cœurs de Nisa, la fureur insensée de Lycurgue en vain contre la jeune vie, le cadavre de Pinté qui réjouit la triple horde, les matelots tyréniens qui, en dauphins au corps courbé, de leur navire pris au pampre se jettent dans les vagues. Pour toi, je chanterai les ruisseaux parfumés qui traversent Naxos, la foule des Naxiens venant boire de ton vin. Les grappes du lierre grimpant chargeront ton cou resplendissant. La mitre de Lydie ouvrira tes cheveux bassariques. L'huile parfumée coulera de ta nuque lisse. Sur tes pieds nus retombera la robe flottante. La Thèbe de Dircé fera sonner le tambour voluptueux. Des pans aux pieds de bouc retentira le chalumeau. Auprès d'eux, Cybèle, grande déesse à couronne de tours, frappera des cymbales rauques pour les cœurs de Lyda. Devant les portes du temple, le prêtre versant de son cratère d'or le vin des libations qui honorent ton culte, moi, chaussé du cothurne imposant, d'un souffle tonnant tel celui de Pindare, je redirai cette glorieuse légende. Toi, libère-moi seulement d'un superbe esclavage, me forçant au sommeil, triomphe de mon être. Alors, vous voyez, c'est la grande envolée lyrique, mais en fait, de quoi s'agit-il? Bon, si tu as des peines de cœur, bourre-toi la tronche. Mais c'est justement là où Proper se joue des ambiguïtés entre les grands thèmes et puis le thème amoureux qui rapetisse les choses, finalement. Mais il y a un basculement de l'un à l'autre, du grandiose au trivial et du trivial au grandiose. Par la référence, alors ici surabondante, je ne vais quand même pas décliner tous les détails mythologiques qui s'y déploient, à commencer par Ariane sur son char que Bacchus entraîne parmi les astres, hein, c'est la fameuse couronne boréale. Enfin. Et puis, bon, ici aussi, les matelots tyréniens, enfin, qui avaient, c'était des espèces de voyous qui avaient embarqué le pauvre Bacchus qui se présenté sous la forme d'un voyageur, d'un vagabond. Il l'avait embarqué sur leur bateau pour le détrousser, enfin. Et évidemment, il se révèle comme Dieu. Et il emprisonne le navire dans des lierres. Et évidemment, les matelots affolés se jettent à l'eau et il les transforme en dauphins. Enfin, bon, vous voyez, donc, il y a toute une... Alors, évidemment, c'est assez amusant de lire tous ces thèmes, mais pris comme ça, c'est aussi un jeu avec les sonorités des noms propres, hein, qui fait que la mythologie, un peu comme Victor Hugo avec la Bible, si vous voulez, il joue avec des sonorités qui ne sont même pas exotiques pour l'époque, elles le sont pour nous, parce que nous avons perdu un peu de vue tous ces mythes, tous ces grands mythes, sauf à relire Homère ou Hésiode, enfin, qui sont quand même les deux grandes sources. Hein. Voilà. Le 27e poème du deuxième livre, qui personnellement me touche beaucoup, non par ce qu'il raconte, mais par la manière dont il amène finalement quelques lieux communs. Mais vous, mortels, qui cherchez l'heure incertaine du trépas, la route par laquelle la mort approchera, à l'exemple des Phéniciens, vous cherchez dans un ciel calme l'étoile propice à l'homme et celle de son malheur. Qu'à pied l'on poursuive les Parthes ou les Bretons sur des navires, par voie de terre, par voie de mer, ce ne sont que périls cachés. Nous pleurons parce que nos vies sont livrées au désordre, quand en mêlées indéciles, Mars oppose des armées, mais aussi parce que les maisons brûlent, que les maisons s'écroulent,
que de noirs poisons pénètrent par nos lèvres. Seul l'amant sait quand et de quelle mort il mourra, mais il ne craint ni les armes, ni les souffles de Borée. Quand bien même, assise avec sa rame dans les roseaux du Styx, il aperçoit la voile sombre de la barque infernale, si l'ami le rappelle, au son de sa voix, bientôt, par le chemin qu'aucune loi n'autorise, il reviendra.
Et alors je voudrais aborder le 7e poème du 4e livre, ce par quoi j'ai commencé la traduction de Properce, parce que j'ai eu une espèce de choc esthétique. Je voyais du Baudelaire là-dedans, et je ne sais pas si vous le connaissez, mais... Bon. Et c'est aussi ce qui m'y a amené, c'est un livre consacré à l'épitaphe romaine. L'auteur, c'est un certain Wolf, c'est Eric Wolf, je crois, j'ai oublié le prénom. Oui, c'est Eric Wolf, oui. Il s'appelle Poésie funéraire épigraphique à Rome. Et il cite, entre autres, Properce, et notamment cette épitaphe à Quintia, hein, puisque Quintia est morte, et il la revoit en songe. Est-ce que j'aurai le temps de le lire? On verra. C'est un poème très long. Peut-être que je serai amené à le tronquer, mais bon.
Les mânes sont quelque chose, tout dans la mort ne finit pas. Triomphant du bûcher, une ombre livide s'échappe. C'est ainsi qu'incliné sur ma couche m'est apparu Quintia. Je l'ai traduit autrement dans le livre, mais j'aurais préféré le traduire comme ça. C'est ainsi qu'incliné sur ma couche m'est apparu Quintia, naguère ensevelie près d'une route et de ses bruits. À l'heure où le sommeil en suspens, après les funérailles de mon amour, je me plaignais du froid empire de mon lit. C'était sa chevelure mise en terre avec elle, c'était ses yeux, un pan de sa robe avait brûlé, le feu avait rongé le béryl qu'elle portait au doigt, l'eau du léthé avait usé ses lèvres, le souffle de la voix qui en sortait lui donnait vie. Mais sur ses mains fragiles, les pouces craquaient à se rompre. Perfide, de qui aucune amante ne peut espérer mieux, se peut-il déjà que sur toi le sommeil ait repris son pouvoir? N'aurais-tu souvenir des veilles secrètes de Subur? Subur, c'est un quartier interlope de Rome, non loin du Capitole, autrement dit, un quartier de taverne et de bordel, quoi. Donc, vous voyez, n'aurais-tu souvenir des veilles secrètes de Subur, des ruses nocturnes, de leur empreinte à ma fenêtre? Combien de fois par une corde ne suis-je descendu pour que de l'autre main tu te jettes à mon cou? Souvent au carrefour, Vénus nous unissait poitrine contre poitrine, et nos manteaux réchauffaient le sol des rues. Hélas, pacte secret, parole fausse, que les notus ont dispersée, qu'ils ne voulaient entendre. À mes regards mourants, nul n'a lancé d'appel. Que tu m'aies rappelé, j'aurais gagné ne serait-ce qu'un jour. Aucun veilleur auprès de moi n'a fait crépiter le roseau fendu. Une tuile brisée, placée dessous ma tête, l'aura blessée. Enfin, qui t'a vu pencher sur ma dépouille, embrasant de tes pleurs la tauge noire? Si, au-delà des portes, suivre mon lit funèbre t'embarrassait, peut-être pouvais-tu ralentir le cortège. Ingrat, pourquoi toi-même n'as-tu pour mon bûcher prié les vents? Pourquoi les flammes n'ont-elles eu l'odeur du nard? Il t'aurait bien peu coûté de lancer des jacinthes, de briser une jarre pour honorer mes cendres. Que Lygdamus, l'esclave né, soit au supplice, l'âme chauffée à blanc. J'ai bien senti qu'à boire le vin traître, je blêmissais. Ou bien Nomas, la fourbe, qu'elle renonce au secret de la bave. Une tuile brûlante accusera ses mains. Elle qui la nuit hier encore à vil prix se donnait en public, la voilà marquant de sa cyclade d'or, la marquant le sol de sa cyclade d'or, elle inflige d'iniques pesantes cordeilles. Excusez-moi. Elle qui la nuit hier encore à vil prix se donnait en public, la voilà marquant le sol de sa cyclade d'or. Elle inflige d'iniques et pesantes corbeilles si quelque bavarde en vient à dire mes beautés. Pour avoir sur ma tombe à portée des couronnes, pétalée, la vieille femme éprouve les fers du poteau d'infamie. D'avoir osé invoquer mon nom, la laguée, pendée par les tresses et fouettée. Tu acceptes qu'elle fonde l'or de mon portrait, qu'aux dépens de mon bûcher, de son ardeur, elle œuvre à sa dot. Bien que tu le mérites, properce, je ne vais pas m'acharner. Longtemps j'ai régné dans tes livres. Je jure par les destins, par leur chant implacable, qu'ainsi le chien triple aboie sur moi plus doucement. Je n'ai cessé d'être fidèle. Si je mens, que sur ma tombe la vipère siffle, qu'elle dorme au-dessus de mes restes. Double est le séjour et le sort où mène le fleuve infâme, où la foule des ombres rame en des sens opposés. Une eau emporte Clytemnestre et sa débauche, où la crétoise adultère qu'a porté la fausse et monstrueuse vache de bois. Et voilà ceux que la barque couronnée emporte vite sur l'autre bord, où un souffle bienheureux caresse les roses de l'Élysée, où résonnent en cadence les disques, les lyres, les disques des reins de Cybèle et les cœurs coiffés de mitres au son des plectres de Lydie. Andromède, Hypermestre, épouse sans reproche, racontent leur histoire en ces moments illustres. L'une se plaint que les chaînes de sa mère ont bleui ses bras, qu'injustement les rochers lui ont glacé les mains. Hypermestre narre la grande audace de ses sœurs, le crime qu'elles ont commis, dont elle n'eut pas la force d'âme. Ainsi, dans les pleurs de la mort, nous sanctifions les amours de la vie. Moi, sur tes nombreuses perfidies, je me tais. Mais je te confie mes volontés. Si du moins tu te laisses émouvoir, si Chloris ne te tient tout entier sous ses charmes et ses herbes, que Parthénie, ma nourrice, en son âge tremblant, ne soit dans le besoin. Elle ne fut pas envers toi cupide, elle eût pu l'être. Que ma très chère Latrice, dont le nom même est dévouement, n'ait de miroir à tendre à la nouvelle maîtresse. Tous les vers que tu fis pour ma gloire, quand mon nom tu les brûles, renonce aux louanges qui me concernent, plante du lierre sur ma tombe, ces grappes molles résistent, s'entortillent et comme une chevelure s'agrippent à mes os. Dans ces campagnes feuillues où l'agneau veille aux fruits, où par la grâce d'Hercule jamais l'ivoire ne jaunit, fais graver en milieu de colonnes un bref poème digne de moi, afin qu'au sortir de la ville, le cavalier au galop puisse lire. Si gît en terre de Tibur la radieuse Quintia, terrible agneau en tire plus de gloire. N'ignore pas les songes qui viennent par les portes des justes. Les songes qui viennent des justes ont du pouvoir. La nuit, nous allons au hasard. La nuit libère les ombres captives. Cerbère lui-même errant force la porte. À l'aube, une loi sans appel nous ramène au marais du Léthé. Le nocher compte la charge et nous transporte. Sois à d'autres à présent. Bientôt je t'aurai pour moi seul. Tu seras avec moi. Nos eaux mêlées se frotteront ensemble. Là prennent fin ses reproches et sa plainte envers moi. L'ombre échappe à mes embrassements.